Faut-il dire à Thierry Kahn, ce trompettiste, qu'il raccroche à l'occasion de ce concert proposé jeudi soir à Dijon à la salle de Vosges? On va lui demander puisqu'il est en ligne. Toujours trompettiste, mais on arrête l'enseignement?
Oui, c'est ça. Bon, maintenant, je pense qu'à 66 ans, il est arrivé le moment de raccrocher cette démarche pédagogique qui était initiée il y a très longtemps, hein, 40 ans, donc. Et c'est effectivement pas la fin de ma vie de musicien, puisque je vais continuer les concerts encore quelques temps. Et voilà, donc on fait un concert qui est un petit peu à la somme de mes rencontres et de mon activité au Conservatoire de Dijon.
Comment avez-vous fait coexister justement ce travail de musicien en scène ou en studio avec l'enseignant que vous avez été au Conservatoire de Dijon?
Ça n'a pas toujours été facile, bien sûr, parce qu'il y a eu des périodes surchargées, mais puis ce n'est pas toujours facile de quitter les cours. Heureusement, j'ai eu des directeurs au conservatoire qui m'ont permis souvent de déplacer mes cours ou de faire des choses comme ça ou de me faire remplacer par mes assistants, ce qui m'a permis d'aller 20 fois au Japon et de faire le tour du monde plusieurs fois et de faire tout ce que j'ai eu envie de faire avec la gourmandise que vous me connaissez.
Qu'est-ce qui a le plus enrichi le musicien? L'interprétation des œuvres, alors quelles qu'elles soient, puisque vous avez un éventail assez large, on peut même dire parfois vous faites artiste de variété,
Oui.
c'est un peu provocant en disant, qu'est-ce qui a le plus apporté à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que c'est le musicien qui a le plus apporté à l'enseignant ou est-ce que ce contact fréquent, voire quotidien avec de jeunes musiciens vous a le plus nourri?
Ben, j'ai envie de dire que les deux se sont nourris l'un de l'autre, mais la vie de musicien trompettiste et les rencontres avec tous les gens que j'ai rencontrés, si vous voulez, c'est un autre monde que celui du conservatoire. Le monde du conservatoire, c'est un monde qui est axé sur la jeunesse, sur la pédagogie. Alors évidemment, moi, ma façon d'enseigner a évolué pendant ces 40 ans. Je pense avoir progressé parce que quand on démarre, on a des idées, mais on n'a pas d'expérience. Et une idée n'a de valeur que si elle se confronte à une expérience et à une réalité sur le terrain, je dirais. Donc, bien sûr que toute cette influence a été nourrie par mon parcours de musicien. Mais en même temps, quand j'étais au Japon ou que je jouais avec Jean Guillou à Saint-Eustache, ça n'était pas lié à mon activité du conservatoire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours essayé de faire profiter à mes élèves, de cette vie très riche en leur amenant des concerts à Dijon avec des grands artistes. Et c'est un petit peu ce que je fais lors de ce concert. C'est que quand je propose Gustavo Beitelmann, qui était mon partenaire pour l'indice de tango, que je propose Caratini pour faire avec qui j'ai fait un peu de jazz, et les collègues avec qui j'ai enregistré le dernier disque autour de la Strada, ben c'est parce que j'ai envie de montrer à mes élèves tout ce que j'ai fait qui est passionnant et qui va peut-être leur donner à eux aussi des idées.
Ça veut dire que vous leur dites, vous pouvez le faire aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Tout est possible. Moi, j'aurais jamais imaginé faire tout ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Par contre, au fur et à mesure des rencontres, et notamment celle avec Maurice André, qui a été un déclencheur extrêmement puissant, et il a élargi tellement les possibilités de la trompette instrumentalement, mais aussi musicalement, que ça m'a donné des idées. Alors, j'ai pas eu forcément les mêmes idées que lui, que quand je suis allé faire des incursions dans le tango argentin ou des choses de ce genre-là, c'était pas une idée qu'il m'a soumise, mais c'est une idée qui a été possible parce que il avait ouvert les portes de la trompette. Donc, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tous mes élèves. Et d'ailleurs, certains ont suivi ses conseils et ont fait des carrières de musicien professionnel avec autant d'ouverture.
Thierry, quand je ne parle pas des répertoires, mais est-ce que la pratique de la trompette, et par voie de conséquence l'enseignement, est le même? Vous avez fait référence à Maurice André, alors plus contemporain, puisqu'il est toujours parmi nous, Bernard Soustrot, ou vous-même. Est-ce que vous jouez de la même manière que peuvent le faire les Romain Leleux ou Amine Malouf aujourd'hui, les jeunes musiciens stars?
Globalement, l'école française, puisqu'on a tous eu à peu près les mêmes professeurs, Ibrahim a travaillé avec Guy Touvron, qui était un ami et qui est un élève de Maurice André. Bernard est un élève de Maurice André après avoir travaillé à Lyon. Vous savez, l'école de trompette française, elle a irrigué le monde entier. La plupart des écoles américaines Scandinavirus viennent des grands maîtres fondateurs qui étaient Jean-Baptiste Arban et après plus tard Forestier, Fauveau, Savariche et après Maurice André. Donc il y a une histoire de la trompette française qui est très ancienne, qui a fixé un enseignement qui était extrêmement fédérateur. Donc, si vous voulez, hormis nos différences physiques et nos orientations musicales, on vient tous à peu près du même terreau, je dirais.
Est-ce que vous avez le sentiment, Thierry Kans, en vous rappelant de ces 40 années d'enseignement, que la demande des jeunes trompettistes, vos élèves ou vos anciens élèves, est la même aujourd'hui qu'elle l'était lorsque vous avez commencé à enseigner?
L'époque est très différente. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que nous, dans ma génération, on a démarré, on était beaucoup plus respectueux et beaucoup plus, attentionnés et rigoureux dans le travail. Il y a aujourd'hui une différence notable de comportement. Les élèves ont du mal à se fixer plus longtemps sur une même chose. Donc, et ils sont aussi quelquefois moins respectueux de leurs professeurs, ça arrive. Et donc, si vous voulez, c'est pas le même rapport à l'enseignement, mais le problème est le même à l'école primaire, comme au lycée ou comme même en université, où on privilégie la liberté à tout point de vue. Or, à mon époque, on était plus dans une logique de respect de la tradition et de l'enseignement. Alors voilà, mais je dirais, il y a toujours des exceptions. J'ai eu des élèves qui ont été aussi rigoureux que moi je l'étais à notre génération. Ça dépend aussi de l'éducation et du contexte social.
Tendance. On a entendu il n'y a pas si longtemps Philippe Cassard sur BFC Classique, le pianiste, mais aussi j'ai écrit dans la presse ou qu'on entend sur France Musique pour qu'il écoute. Un peu contre, je dirais, les décloisonnements. Enfin, il ne supporte pas le crossover, comme il le disait lui-même dans un enregistrement qu'on peut retrouver sur le site de BFC Classique. Et puis ceux qui, au contraire, considèrent qu'il faut ouvrir au maximum le domaine classique pour peut-être justement ne pas en faire un domaine réservé. Quelle est votre position?
Je comprends très bien ce que veut dire Philippe Cassin, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Le crossover, et moi j'en fais, j'en ai fait et j'en ferai, c'est une façon effectivement de prendre une vision de la musique plus populaire et plus accessible. Mais il ne faut pas confondre André Rieu et David Oistrakh. C'est pas le même niveau ni la même catégorie. Et l'un a une fonction, l'autre en a une autre. Après, on peut bien sûr mettre une hiérarchie. C'est évident qu'entre André Rieu et Oistrakh, c'est pas le même niveau. Il y a un débutant à côté d'un grand super soliste. Mais il en faut pour tous les goûts. Je pense que les mélomanes classiques avertis écouteront plus Oistrakh et puis le grand public qui a envie de faire des concerts, d'aller à des concerts familiaux avec des grands spectacles, iront voir les concerts de Rieu avec peut-être du plaisir. Alors je ne sais pas si l'un amènera des auditeurs à l'autre. Moi, je suis d'une génération qui avait une grande admiration pour quelqu'un comme Jacques Chancel, qui arrivait justement, lui, avec une exigence et que des programmations haut de gamme, à élargir terriblement le public des mélomanes classiques, en mélangeant Henri Salvador à Maurice André, Julien Clerc à Oistrakh. Ça peut donner si vous voulez, une espèce de liberté qui va peut-être décoincer le monde classique qui est un peu coincé, il faut bien le dire, mais ceci est de moins en moins vrai. Donc voilà, mais bon, après, on peut aussi regretter que l'audience, enfin la programmation des choses se fasse surtout en fonction du crossover et moins au profit d'une culture exigeante, plus classique et plus rigoureuse. Et encore une fois, ce sont deux missions différentes, elles ont leur rôle. Et moi, je passe de l'un à l'autre régulièrement. Je sais exactement ce que je fais quand je fais de la variété. Je n'ai pas la même conscience. Je ne dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux. Je dis simplement que c'est une autre partie de mon cerveau et c'est une autre partie de mon travail.
Thierry Kans, on ferme la page enseignement au Conservatoire de Dijon et après, qu'est-ce qu'on fait?
Mais moi, je vais continuer les concerts tant que j'aurai encore de la force pour le faire, ce qui ne va pas durer 10 ans non plus. Hein.
Est-ce qu'on n'est pas tenté de s'arrêter plutôt justement avec un instrument très physique comme la trompette que peuvent le faire et ce n'est pas péjoratif à leur égard, mais les gens de clavier, l'orgue, le piano, le clavecin?
Oui, mais c'est évident que la trompette est l'instrument de l'orchestre le plus pénible physiquement. Les lèvres, la respiration, la capacité physique globale, parce qu'il faut savoir que nous, on utilise très peu d'air hein, par rapport à un flûtiste qui dépense des milliers de litres d'air. Nous, on en dépense très peu, mais on en dépense avec une grosse pression. Et donc, c'est ça qui nous fatigue beaucoup. Et donc, ça, tant qu'on est un peu en bonne santé, ça va. Mais dès lors que ça se dégrade, c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, on choisit de jouer des répertoires différents, on joue des choses moins difficiles, moins pénibles, et puis on adapte jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Alors après, je pose la question, le concert de trop, c'est la question qui hante tous les musiciens en fin de carrière. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que je ne ferai pas un concert d'adieu.
Et ça n'est surtout pas le cas, donc ce jeudi soir à la salle de Vosges. Vous serez avec qui ?
Alors, il y aura beaucoup de musiciens. Il y aura des musiciens qui ont fait partie de ma vie locale, je dirais. Les professeurs du conservatoire comme Didier Ferrière, Sarah Chenal, Olivier Pellemoine, Benoît Tourette au piano. Et puis, il y a les camarades de carrière musicale à Paris et dans le monde entier, que sont Gustavo Beitelmann, Léo Sanchez, Patrice Caratini. Et puis, quelques surprises. Il y aura aussi des surprises. Je réserve un certain nombre de surprises. Et puis, il y a mes amis avec qui je joue régulièrement, comme Sam Garcia et Pierre Sylvan, avec qui je fais du trio. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y aura mes élèves, les anciens élèves depuis 40 ans qui sont venus. Certains viennent d'Italie, d'autres de Pologne pour participer au concert. Il y aura les anciens élèves du Cornet à la frite que j'ai fait dans les quartiers de la Fontaine d'Ouche il y a quelques années. Voilà, donc c'est un peu la somme de toutes mes rencontres et toutes mes passions musicales qui seront réunies là.
À la salle Pierre de Vosges, ce jeudi, c'est à 20h. Alors, la salle de Vosges, elle est rue de Vosges, tout simplement. On met toutes les informations sur le site de BFC Classique.